Oui, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre vie. C'est pour ça que le thème de ma prédication ce matin est un verset de la parole de Dieu qu'on va lire dans Osée. Mais ne cherchez pas d'abord dans Osée, on va lire dans Jean. C'est espère toujours en ton Dieu. Vous savez, l'autre matin, l'autre soir, je suis parti au lit. J'aime bien, avant d'aller me coucher, lire un texte, un psaume, un chapitre. Et je lisais dans Osée, parce que je vous avais encouragé à lire Osée. Moi-même, je me suis dit, tu vas le lire. Et on va le lire, ce texte, espère toujours en ton Dieu. Il y a des commandements qui devraient vraiment nous arrêter. C'est important quand Dieu nous dit espère toujours. Nous allons lire quelques textes, quatre, dans Jean au chapitre 11. Vous connaissez cette affaire? Bon, Jésus a attendu, il a attendu plusieurs jours avant d'intervenir. Il sait, le Seigneur, quand est-ce qu'il doit intervenir. Vous le savez? Dieu sait. Dans Jean au chapitre 11, nous avons cette fameuse histoire où Jésus a attendu avant d'aller vers son ami, parce que c'était un ami en plus. C'était un ami. Et les sœurs de cet ami étaient des amies à Jésus. C'est pas parce qu'on est des amis du Seigneur qu'il va intervenir de suite. Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, sois-y, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je peux vous dire qu'ils n'ont rien compris à cette parole. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare et vous. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, Retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis, vous pouvez quand même le souligner, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. Un petit peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, il nous est parlé d'Abraham. Il nous est parlé dans ce fameux chapitre 11 d'une quantité d'hommes et de femmes qui ont été en bénédiction parce qu'ils ont marché par la foi. Et je voudrais lire avec vous ce verset, Hébreux 11, verset 17 à 19. Hébreux, chapitre 11, verset 17e. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Amen. Il pensait. Il ne le disait pas. Enfin, il le disait peut-être, mais il le pensait surtout. Parce que des fois, on dit des choses qu'on ne pense pas. Romains au chapitre 5, nous est reparlé d'Abraham. Et au verset 17 de ce... Non, Romains chapitre 4, verset 17... C'est un verset, moi, qui m'a toujours interpellé dès le début de ma conversion. La deuxième partie du verset 17, Romains 4, verset 17, quand il est dit « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Vous le croyez, mes frères et sœurs? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 19. « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. » Et un dernier texte dans le prophète Osée, ce prophète dont je vous avais demandé de lire les chapitres. Osée chapitre 12, il nous est rappelé l'expérience de Jacob. On peut le lire, c'est bien. Osée chapitre 12, verset 4. Il y a des fois des gens qui nous disent, pourquoi vous avez dit par exemple que Jacob il a pleuré? Ce n'est pas écrit dans la Genèse, mais c'est écrit là, voyez. Osée chapitre 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Amen. Et c'est le titre de ma prédication, et c'est un commandement que le Seigneur nous adresse à chacun, et que nous devrions prendre avec sérieux. C'est une promesse, mais une promesse doit être considérée avec beaucoup de respect. Espère toujours en ton Dieu. Ce matin, je lisais les Éphésiens pour mon culte personnel, et je lisais quand Paul rappelle que nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous vous souvenez de cette époque où vous étiez sans espérance? Franchement, je ne sais pas comment ils font les païens. Je vous avoue, je les plains vraiment. Il y a une grande différence entre le chrétien et le païen. Mais je vous avoue que je ne veux pas savoir ce qu'il vit. Tellement ça doit être terrible d'être sans espérance. Nous étions sans espérance et sans Dieu. Et c'est une grande bénédiction que de croire que dans une église, il peut y avoir des hommes et des femmes qui sont remplis. On parle souvent d'être rempli du Saint-Esprit, mais ça peut être expliqué différemment. Quand il est dit que, par exemple, Abraham avait une pleine conviction, c'est ça être rempli. Quand on est rempli, il y a plein d'attributs qui correspondent à cette affaire. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est plein de paix. Est-ce que la Bible parle d'une pleine paix? Oui, ou d'une parfaite paix, c'est pareil. Que votre paix soit parfaite, c'est pareil, une pleine paix. Quand la Bible parle d'une pleine bénédiction, est-ce que c'est bien d'avoir de l'assurance et de dire, moi, de toute façon, j'obéis et je peux faire les choses avec une pleine bénédiction? Est-ce que Paul l'a dit? Quand il a été à Rome, il a dit, oui, je viens vers vous et je suis rempli d'une pleine bénédiction. Et la vie avec Dieu est une vie qui correspond à cela. Je dois avoir une pleine conviction, une pleine assurance et une pleine espérance. Et ils sont heureux, les chrétiens, qui travaillent, parce qu'on est tous à la même enseigne, on a toutes nos luttes, nos combats, nos moments difficiles, nos épreuves, nos pleurs, tout ça, ça fait partie de la vie, ne vous formalisez pas parce que vous pleurez, parce que des fois vous êtes abattu. Moi, je crois que le diable, il s'affaire à nous décourager. Ça ne vous arrive pas d'être des fois abattu, vous ne savez même pas pourquoi, eh bien ça fait partie des combats, ça fait partie des mauvais jours que nous rencontrons. Ne vous accablez pas parce qu'il y a des mauvais jours, il y en a des mauvais jours. C'est pour cela que nous devons veiller à être remplis d'espérance. Oui, heureux les chrétiens qui comprennent ce que je suis en train d'expliquer, à savoir que l'on peut avoir une pleine bénédiction, une pleine paix, une pleine espérance. Oui, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu doit être vivante. Parole de Dieu, beaucoup de chrétiens la lisent parce qu'on leur demande de la lire, parce qu'ils la lisent intellectuellement, c'est pas mal non plus. Mais ils ne la lisent pas en comprenant que la parole, elle est vivante. La parole, elle est vivante. Elle est efficace. Et quand Jésus donne quelque chose, il veut que nous mangions ce qu'il nous donne. Il veut nous redonner de l'espoir. Le Seigneur le sait si quelqu'un est abattu. Vous comprenez bien que ce matin, Dieu voit si quelqu'un est abattu. Et Dieu ne va pas le laisser cette personne abattue dans son abattement. Dieu va vouloir lui redonner de l'espoir. Quand Jésus parle, c'est pour que nous comprenions quelque chose ou que nous réapprenions quelque chose. Dieu n'a pas l'intention de vous laisser dans votre abattement. Regardez comment il a rejoint le jour de la résurrection les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Voyez, nous, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, le jour de la résurrection? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, le jour de la résurrection? Qui auriez-vous été allé voir? Qu'est-ce que vous auriez fait? Peut-être vous auriez dit, ah, mais peut-être moi je vais aller voir Pilate, comment il m'a traité Pilate, ou Hérode, avec quel mépris, mais comment il m'a parlé dans son palais, quand même, je suis le fils de Dieu. Est-ce que Jésus aurait pu aller faire la morale à Pilate, ou à Hérode, ou à Anne, est-ce qu'il aurait pu? Il n'a pas fait. Vous savez, le Seigneur, il va vers ses enfants. Le Seigneur, il va vers les siens. Ça ne vous rassure pas? Ça ne vous encourage pas, le Seigneur, il n'est pas impressionné par le protocole. Le Seigneur, il aime ses enfants et il va vers ses enfants. Et il n'y a que lui qui sait comment nous dire quelque chose. Et il sait le dire. Le problème, c'est que souvent, oui, le problème, entre guillemets, c'est que souvent, Dieu nous bénit par des choses, par des paroles toutes simples. Nous, on a l'impression qu'il faut un super discours. Alors, on le voit en politique, il faut des discours de trois quarts d'heure pour essayer de comprendre quelque chose qu'on va peut-être faire si l'Assemblée est d'accord. Mais il faut au moins trois quarts d'heure. Et si vous savez que c'est vrai, c'est pas du tout du mépris. Mais quand Dieu dit quelque chose, en deux mots, il peut nous faire comprendre qu'il est le maître du ciel et de la terre et qu'il sait ce qu'il va faire. Quand Dieu dit « espère toujours en ton Dieu », ça devrait vous rassurer. Vous pouvez espérer en lui toujours. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. On a tous des moments difficiles. On traverse tous des moments pénibles. Et des fois, on en parle. C'est bien si on peut en parler. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas en parler. Est-ce qu'on peut parler à tout le monde? Non, on ne peut pas toujours parler à quelqu'un. Ça peut ne pas se présenter. Parce que même parfois, les gens ne peuvent pas nous comprendre. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de s'arrêter, comme on va le voir tout à l'heure, et d'entendre une parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut dire certaines choses. Quand il dit aux douze, le jour de la mort de Lazare, « Lazare est mort, mais je me réjouis. » Moi, j'imagine les autres à côté dire, « Eh bien, c'était son ami. » Parce que c'est bizarre, cette histoire. Là, il se réjouit. Plus loin, quand il arrive à la maison de Marthe et Marie, il pleure. Quand on réfléchit, mais il y a beaucoup d'enseignements. Oui, le Seigneur, il sait. Peut-être que Dieu est en train de se réjouir de certaines choses que vous êtes en train de vivre parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il le sait, lui. Vous pleurez. Parce que c'est normal de pleurer. Mais le Seigneur, il peut dire, moi, je me réjouis. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Le Seigneur, il sait. Et quand Dieu dit une parole, il faut la prendre au sérieux. Voilà, allons vers lui. Vous êtes peut-être mal en point. Mais le Seigneur, il veut venir vers vous et vous bénir et vous aider. Vous savez, il n'y a que lui qui peut faire certaines choses parce que pour lui, la mort n'existe pas. Pour nous, la mort, elle existe. Qu'est-ce que vous pensez de la mort, vous? Chacun a sa pensée de la mort. Quand vous lisez vraiment les Écritures, Jésus dit, mais pour lui, en parlant des morts et des vivants, tous sont vivants. La mort, en vérité, n'existe pas. Il y a une séparation physique. Il y a une séparation éternelle, il y aura une séparation entre les morts et les morts en Christ et les morts sans Christ. Nous serons séparés de ceux qui n'ont pas voulu de Jésus-Christ, ça c'est clair, il y aura une séparation. Quand la Bible parle de la seconde mort, elle parle de ceux qui n'auront pas voulu se repentir, qui n'auront pas voulu se convertir, et bien eux ils mourront entre guillemets une deuxième fois, parce qu'une deuxième fois ils seront séparés éternellement de Jésus-Christ. Mais la mort n'existe pas. C'est Marc ou Matthieu, enfin c'est un évangéliste, qui dit, pour lui, tous sont vivants. Tous sont vivants. Et nous devons bien comprendre que quand Dieu dit ces choses, c'est pour que nous comprenions qu'il sait ce qu'il a à nous dire, il sait ce qu'il doit faire, mais ça passe souvent par des choses très simples, ça passe par un mot. Lazare est mort, mais allons vers lui. Et ce matin, il peut nous dire la même chose. Nos enfants... Peut-être certains de nos enfants sont spirituellement morts, certains de nos amis sont morts, peut-être un de votre conjoint est mort, mais écoutez Dieu vous dire, ton mari ou ta femme est mort, ton fils est mort, mais on peut aller vers lui, parce que moi je sais ce que je vais faire. Ne vous affolez pas parce que votre fils, empire, vous croyez que ça le gêne au Seigneur? Ça ne le gêne pas du tout, le Seigneur. Il sait ce qu'il doit faire. Rappelez-vous, quand le père du fils prodigue a dit à son fils aîné, « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Mais c'est quand même une question que je nous pose très simplement. Parce qu'il faut quand même à un moment donné dire « C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est vrai. » Ok. Mais qu'est-ce que vous faites des paroles ou des mots? Parce qu'un mot, ça suffit. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que vous faites, nous, qu'est-ce que nous faisons, des paroles que le Seigneur nous adresse, parce qu'il y a la parole, dans son ensemble, dans sa généralité, puis il y a quand même une parole de Dieu qui s'adresse à notre cœur. J'espère que dans nos cultes personnels, peut-être que vous, je ne sais pas si vous le faites tout le jour, je l'espère, mais même si vous ne le faites pas tous les jours, quand même, j'espère que dans vos cultes personnels, il y a une parole de Dieu qui vous interpelle, comme moi l'autre soir, mercredi soir, en lisant Osée, espère toujours en ton Dieu, je vous assure, je me suis endormi avec énormément de joie, parce que Dieu me rappelait quelque chose, mais que j'avais besoin de réentendre. Qu'est-ce que nous faisons des paroles que le Seigneur nous adresse ? Qu'est-ce que vous faites ce matin de cette parole ? Lazare, mais vous pouvez mettre le nom de votre fils ou le nom de votre conjoint s'il n'était pas chrétien. C'est peut-être ce que le Seigneur veut vous dire. Mais ton mari, oui, il est mort. Mais moi, je vais venir vers lui et je vais le guérir. Vous croyez que Dieu peut s'occuper de votre conjoint ? Ne vous en occupez pas, vous. Aimez-le, priez pour lui, mais ce n'est pas vous qui pouvez ressusciter quelqu'un. C'est Dieu qui ressuscite les morts. C'est Dieu qui bénit. Oui, Dieu veut que vous soyez remplis d'espérance. Vous savez, il y a trois choses qui doivent demeurer dans le cœur d'un chrétien. Vous pouvez me les rappeler, vous le savez. Dans Paul, 1 Corinthiens 13, il dit « Trois choses demeurent ». Allez, dites-moi. Bon, j'espère heureusement que vous le savez. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Ces choses-là, c'est du non négociable. Il y a des choses, elles peuvent, des fois, on peut voir un chrétien qui dit, voilà, je traverse un moment, j'ai pas envie de servir. Bon, on peut dire, écoute, bon, c'est pas bien, mais ressaisis-toi. C'est pas trop grave, si ça dure pas. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut absolument veiller. C'est non négociable. La foi, l'espérance et l'amour, ce sont des vertus qu'il faut absolument entretenir. Je le disais l'autre jour, c'est comme quand vous partez en vacances, il faut que le réservoir soit plein, qu'il y ait de l'huile dans le moteur, il faut... Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais parlé de l'essence, l'huile, qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, c'est pas grave. Il y a des choses sur lesquelles on veille. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je suis pas un mécanicien, moi. Dieu veut que vous soyez remplis d'espérance. C'est quelque chose que Dieu veut. C'est quelque chose que Dieu va vous donner. Vous demandez peut-être certaines choses... Vous les aurez peut-être jamais, mais ces choses-là, Dieu veut que vous les ayez. Alors, je voulais relire ce verset, il m'est revenu à l'esprit. C'est dans Luc au chapitre 20. Dans Luc au chapitre 20. Lorsque, justement, il parle des morts, parce que les gens, ils s'inquiètent. Et à la mort, quand quelqu'un va mourir, elle a eu sept maris. Elle a eu sept maris. De qui sera-t-elle dans le ciel ? Qui sait qui sera son mari ? Vous savez, à la résurrection. Résurrection. Les Sadducéens. En plus, les Sadducéens, c'était quand même compliqué. Il pose une question à Jésus sur la résurrection, mais si vous lisez le verset 27, il pense que la résurrection n'existe pas. Vous savez, l'incrédulité nous amène à dire des âneries, pas possible. Mais enfin, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le verset 33. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Vous entendez, mes frères et sœurs ? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Dieu règne. Dieu règne sur tout. Par exemple, ce matin, M. Puette louait le Seigneur. Vous vous rappelez la prière que vous avez faite, M. Puette ? Vous rappelez la prière ? Il a dit, est-ce que vous rappelez ce qu'il a dit ? Il a dit, Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre, parce que des fois, les gens, je ne dis pas vous, mais des fois, les gens, Seigneur, l'Éternel des armées, ça veut dire que c'est lui qui combat. Est-ce que vous croyez que Dieu sait combattre ? Quand on dit l'Éternel des armées, c'est pas un attribut, tiens, oh, c'est bien, tiens, oh, c'est joli. Non, ça veut dire que Dieu combat. Quand il est dit l'Éternel fort dans les combats, ça veut dire que Dieu sait combattre pour nous. Et que nous devons vraiment prendre en considération ces choses. Est-ce que vous pensez que Dieu veut vous aider ? Répondez bien à cette question, parce que Dieu va voir votre cœur. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu veut vous aider ? Comment, monsieur Oli ? Mais oui, pourquoi ? Mais parce que c'est écrit. Ceux qui répondent pas, c'est parce que vous ne l'avez pas lu. Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Le Seigneur a dit, l'Éternel est mon aide, je ne manquerai de rien. Est-ce que c'est écrit ? Oui, c'est écrit. Parce que des fois, les chrétiens disent, « Ah, oh, si Dieu pouvait me parler, comme il a parlé à Josué. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Oh, si Dieu pouvait me le dire. » Mais il l'a dit. Le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, « Je serai avec toi. » Et c'est la preuve que les gens ne veulent pas vivre par la foi. Si la Bible le dit, vous pouvez être sûr que c'est important. Quand quelqu'un, l'autre jour, il y a un an ou deux, quelqu'un me disait, « Oh, mais c'est pas pour nous, ça, c'est écrit aux chrétiens de la Odyssée, c'est que c'est pas pour nous. » Moi, je crois que si Dieu a mis certaines paroles dans la Bible, elles sont toutes pour nous. Et que si Dieu avait voulu écrire co-laodicéen, eh bien, la lettre, elle aurait été co-chrétienne de la Odyssée, elle ne serait pas venue dans la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu veut nous aider. Et vous ne pourrez pas être rempli d'espérance, rempli de conviction, si vous ne croyez pas que toute la parole de Dieu, elle est vivante, elle est inspirée pour vous aider. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Nous devons comprendre que quand on écoute ces instructions, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le repos. Moi, ça me brise le cœur de voir des chrétiens qui n'arrivent jamais à entrer dans le repos. Je ne parle pas des luttes, des combats, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Je parle de ce fait que lorsqu'on s'approche de Dieu ou lorsqu'on laisse Dieu s'approcher de nous, il va nous donner une parole qui va, si on la reçoit, nous redonner du repos. Les chrétiens de Sardes, vous connaissez l'église de Sardes ? Ils n'allaient pas très bien dans l'église de Sardes. C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Ils n'allaient pas très bien, ils étaient morts. C'est clair que ça n'allait pas bien. Vous êtes d'accord? Jésus leur dit, tu es mort. Quand Dieu doit nous dire ça, ce n'est pas facile. Hein? Mais voyez, ce n'est pas parce que ça ne va pas spirituellement que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Dieu n'a pas dit, ah, les chrétiens de Sardes, ah ben ils sont morts, bon allez, hop, on les laisse de côté. Heureusement que le Seigneur ne nous met pas de côté quand ça ne va pas. Apocalypse 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà, Dieu s'intéresse à cette église. Oui, elle va pas bien du tout. Elle passe pour être vivante. C'est sûr que dans une église, on peut passer pour être vivant. On peut passer, vous savez, on se promène avec la Bible, on va dans une assemblée, on chante des cantiques. Les gens de l'extérieur, ils vous disent, ouais, c'est des chrétiens, ils sont réguliers, ils ont l'air vivants. Et tu es mort. Alors, regardez les conseils. Qu'est-ce que Dieu donne? C'est pas compliqué. Sois vigilant. Premier conseil. Ce que c'est un vigile? C'est quelqu'un qui travaille la nuit. Souvent la nuit, qui veille. Affermis le reste. Verset 3, rappelle-toi donc, c'est pour ça que la Sainte Cène, c'est quelque chose de très important. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas. Voilà, il y a quelques verbes qui indiquent ce qu'il faut faire pour retrouver la vie. Commencez à être vigilant. Être vigilant, c'est dire, bon, mais je ne vais pas lire la Bible pour lire la Bible, je vais faire attention à ce que tu as à me dire. Et dès demain matin, lorsque je prendrai ta parole, je ferai très attention. Je veux veiller. Il y a des chrétiens qui ne veillent pas, vous avez entendu la prophétie tout à l'heure, il y a des chrétiens qui ne veillent pas, et Jésus a dit, veillez et priez tous les jours, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de la terre. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Veillez, veille et priez tous les jours. Ce n'est pas une fois par mois, c'est tous les jours, afin d'avoir de la force. Et quelqu'un qui veille, voilà, quelqu'un qui dit, bon, mais je veux veiller sur mon âme, je veux être prêt pour quand tu reviendras, etc. Voilà, il veille. Quand quelqu'un est mort, si vous êtes mort, ne vous affolez pas. Nous, on n'est peut-être pas capable de vous aider, mais Jésus dit, voilà, sois vigilant, affermis le reste, applique-toi, rappelle-toi. Vous vous rappelez quand vous êtes converti? Est-ce que vous étiez heureux quand vous êtes converti? Rappelle-toi comment tu as écouté. Et voilà, et fais des choses. Les chrétiens d'Éphèse, certains chrétiens à Éphèse, ça n'allait pas trop bien non plus. Pourtant, c'est une bonne église. Qu'est-ce qu'il leur dit? Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les chrétiens qui étaient morts, pourtant l'église d'Éphèse, c'est une église où on aurait aimé être pasteur. Eh bien, Dieu dit à cette église, réveille-toi d'entre les morts. Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Et la première chose qu'il faut faire en premier, sois vigilant, c'est quelque chose que l'on peut tous faire. Tout le monde peut être vigilant. Je vous donne un exemple. Si en pleine nuit, votre maison prenait feu, qu'est-ce que vous feriez? Vous diriez, Oh non, moi je ne sors pas en pyjama. Je ne sors pas en pyjama, je me rase et je m'habille. Vous feriez comme ça? Ah, moi je ne sors pas en caleçon, moi je sors en pyjama. Moi je me rase, moi je me peigne. Hein? Votre femme, est-ce que vous dites, oh non, moi je ne sors pas, je me maquille un peu, je me peigne. La maison entièrement en feu. C'est ça que vous feriez? Est-ce que vous penseriez à vous peigner, à vous raser, à vous habiller? Qu'est-ce que vous feriez si vous ouvriez les yeux? Non. Et si vous deviez prendre un ou deux effets personnels, qu'est-ce que vous prendriez? Tiens donc, voilà, vive ça, je m'en doutais, merci les stagiaires. Vous serez reconnus quand même, vous inquiétez pas. Mais quels effets premiers vous prendriez? Voilà, je m'en doutais, ah, vive. Ça, allez, si vous aviez le temps de prendre deux ou trois effets personnels. Comment, le portable? Sans portable, non mais c'est sûr. Moi je sais ce que je prendrais, je le sais, je vous le dis pas, mais je sais ce que je prendrais. Il y a des gens, c'est leur papier. Non, c'est pas la caisse avec les papiers, vite. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des urgences. Les vierges folles, si elles avaient su, qu'est-ce qu'elles auraient pris? De l'huile. Et quand même, vous voyez, devant, quand on sait que Dieu s'intéresse à nous, quand on sait qu'il a des choses à nous redonner ou à redonner, quand on voit qu'il y a des choses qu'il sait comment faire, comment dire, même si on ne comprend pas, vous avez, ah, Lazare, il dort, bon, mais c'est bon, on va le réveiller. Non, Lazare, il est mort, mais on va aller vers lui. Et là, mesure, il n'y a peut-être pas le feu, mais enfin, pas le feu, mais il y a peut-être quand même des urgences. Et les vierges folles, si elles avaient été sensibles, elles auraient pris davantage d'huile. Et je crois quand même que chacun d'entre nous devons dire, mais quel est mon premier besoin? Quel est mon premier besoin? Là, aujourd'hui, quelle est la première des choses que je dois faire pour retrouver cette vie? Parce que Dieu est le Dieu des miracles, Dieu est le Dieu des vivants. Pour lui, tous sont vivants. Les gens qui sont là sont vivants, mais les gens qui sont morts, leurs corps sont au cimetière, d'accord. Mais moi, je peux vous dire que ce que Dieu dit est important. Ce n'est pas ce que vous pensez qui est important. C'est ce que Dieu dit qui est important. Et tous les morts sont ou dans la vie éternelle, ou dans la mort éternelle, en attendant le jugement. Ne vous inquiétez pas, ils sont vivants, les gens. Tous. Et justement, il veut que nous comprenions bien qu'il y a des choses à saisir, une parole à saisir. Oui, les vierges folles, si elles avaient su, eh bien, elles auraient pris de l'huile, parce que c'est ce dont elles avaient absolument besoin. Parlons, puisqu'on parle de la mort, lorsque Jésus a été appelé par le chef de la synagogue, parce que sa fille était en train de mourir, vous rappelez cette affaire, hein, c'est une merveilleuse histoire d'évangélisation. Mais ce n'est pas qu'une histoire pour l'évangélisation. C'est une histoire pour les chrétiens. Cette histoire, vous la connaissez. Quand Jésus est arrêté un certain laps de temps, parce qu'il y a une autre femme qui est malade, qui vient, paf, et le temps passe, et puis il y a quelqu'un qui arrive de la synagogue, n'importune pas le maître, ta fille, elle est morte. Alors le père, il a dû être complètement abattu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il a dit, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Si vous saviez comment j'aime cette parole, Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Je ne sais pas ce que vous entendez autour de vous. Je ne sais pas si on vous dit, oui, ton fils, il ne se convertira jamais. Parce qu'il y a des gens, ils sont bons pour vous encourager. Mais enfin, l'ambiance générale fait que nous sommes presque tout le temps entourés de gens qui découragent, oui ou non? Enfin, je ne sais pas, Madame Baladin a l'air d'accord. Vous êtes conscient, au travail, à part dans l'église, quoique, des fois dans l'église, vous auriez presque tendance à fuir certaines personnes, mais ça c'est quand même grave, ça, c'est quand même, ces personnes qu'il ne faut pas malmener à notre tour, mais il faut quand même réfléchir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur Jésus, lui, n'a pas tenu compte des paroles. Il a dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Et ces quelques mots ont amené cet homme à suivre Jésus et aller dans la maison, dans sa maison. Et vous savez comment Dieu a béni cette affaire. Ne crains pas, crois seulement. Oh, monsieur Gou, moi j'ai besoin d'une autre prédication que ces cinq ou six mots. Vous croyez? Il y a des gens qui veulent des super prédications. Moi, je n'y crois pas à la super prédication. Je crois à l'art oratoire, ça j'y crois. Mais moi, je crois à la parole de vie du Seigneur. Et que à un riche, comme à un pauvre, à un intello, comme un analphabète, Le Seigneur est assez grand pour dire à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement et suis-moi. Et tu verras ta fille. Vous croyez que Dieu peut sauver tous vos enfants? Est-ce que vraiment vous croyez que Jésus peut donner la vie aux morts? Est-ce que vraiment vous entendez ce matin, au travers de cette simple exhortation, mais ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. C'est lui qui le fera. Vous, suivez-le. Vous, soyez d'accord. Il ne vous demande pas de faire des trucs extraordinaires. En plus, je l'ai dit il y a quelques semaines ou quelques mois, on demanderait aux gens de faire des trucs extraordinaires, ils le feraient. On dirait aux gens, écoute, mais si tu vas de Toulouse à Paris à pied, mais Dieu te guérira. Je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Et le Seigneur, dans sa bonté, sa simplicité, nous demande juste, mais ne crains pas. N'écoute pas les paroles des gens autour de toi qui te disent ceci, qui te disent cela. Crois seulement. Et Jésus, il est arrivé dans cette maison, qu'est-ce? Et tout le monde, en plus, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais lui, il a posé la main sur cette petite et il l'a guérie. Et laissez-moi vous dire que si vous écoutez la parole, de ne pas craindre, de croire seulement, le Seigneur, il peut poser sa main bénie sur vos enfants, sur votre mari, sur votre épouse, sur les gens pour qui vous priez, parce que Dieu les aime et qu'il veut les sauver. Quand plus tard, par hasard, Jésus se rendait, je ne sais plus où, et paf, il arrive, il croise un enterrement. Il croise un enterrement. C'était extraordinaire. Vous connaissez la veuve de Naïm? Vous connaissez, Jésus arrive, il croise une pauvre femme accompagnée avec les gens du village. Et cette femme, qui venait d'être veuve depuis peu, était en train d'enterrer son fils unique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le désarroi dans lequel cette femme devait se trouver. Et voilà que Jésus, par hasard, arrive avec les apôtres. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a dit à cette femme, ne pleure pas. Et il touche le cercueil. Bien sûr, qu'est-ce que les gens font? Ils s'arrêtent. Quand Jésus pose sa main, il vaut mieux s'arrêter. C'est bien. Mais c'est là, mes frères et sœurs, que je voudrais vous arrêter. Nous arrêter. Le Seigneur, il croise notre chemin. Ce matin, on peut dire que Jésus croise notre chemin. Oui ou non? Lorsque l'on vient de sa maison, ça tient debout ce que je dis. Il peut nous dire, ne crains pas, crois seulement. Il peut dire à quelqu'un, ne pleure pas. Si c'est moi qui vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'obéir parce que vous savez très bien que je n'ai pas forcément la puissance de vous consoler. Quoique, le Saint-Esprit nous aide à être des consolateurs quand même. Mais quand c'est Dieu qui le dit, quand c'est Dieu, ne pleure pas, ça vaut la peine d'arrêter de pleurer. Quand c'est Dieu qui pose sa main, ça veut dire arrête-toi. Et justement ce mot-là, c'est un mot peut-être qui est le cœur de ma prédication, arrête-toi. C'est peut-être là le grand problème des chrétiens d'aujourd'hui. C'est qu'on est pris, on est tous affairés à l'un, à l'autre, à travail, etc. Et Dieu sait, autant c'est une preuve de responsabilité d'être affairé. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de bosser. Moi, franchement, à la limite, je les admire quand je vois le nombre de paresseux qu'il y a. Et vous savez que c'est vrai. Mais il ne faut pas tomber dans cet excès. Et si le Seigneur nous dit « arrête-toi », ça vaut la peine. Est-ce que ça valait la peine qu'ils s'arrêtent ce jour-là, quand ils allaient enterrer le fils? Est-ce que ça valait la peine qu'ils s'arrêtent? Ils auraient pu dire, écoute, laisse-nous, on n'a pas le temps. Est-ce que franchement vous pensez que ça valait la peine qu'ils s'arrêtent? Oui. Mes frères et sœurs, écoutez bien la parole. Si le Seigneur ce matin te dit, arrête-toi. C'est que Dieu, il ne veut pas vous ennuyer. Il a une parole pour vous. Vous vous rappelez quand Saül a bien commencé, a très 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 bien, quand Saül a commencé son ministère, il a été appelé, il était dans une humilité totale, et puis quand il est parti, Samuel lui dit, Saül, arrête-toi, maintenant, car j'ai une parole de Dieu pour toi. Et Saül s'est arrêté. Et il lui a donné une parole qui lui a permis de commencer son ministère, mais sa royauté d'une façon exemplaire. S'il avait fait ça régulièrement, laissez-moi vous dire que Saül n'aurait pas terminé comme il a terminé. Mais justement, peut-être il pensait que, comme tout allait bien, tout irait toujours très bien. Et cette parole qui est venue sur mon cœur hier soir quand je me préparais, arrête-toi. Je vous le dis, mes frères et sœurs, je vous le dis simplement, je suis convaincu qu'elle est pour plusieurs importante. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez converti depuis peu ou depuis très longtemps, c'est une parole que le Seigneur donne ce matin à plusieurs, peut-être à tous. Arrête-toi maintenant, parce que j'ai une parole. Et des fois, Dieu veut nous parler, et il ne peut pas. Et j'ai peur, je pense vraiment, je ne sais pas comment ça se passe, parce que bon, vous comprenez que je ne peux pas savoir. Mais j'ai peur que quand nous partons dans l'éternité, nous ayons, pendant quelques instants, je ne sais pas comment ça doit se passer, le regret profond de ne pas avoir laissé au Seigneur le temps de nous parler, comme il aurait voulu nous parler. Bien sûr que ça ne change rien à notre salut, ça n'a rien à voir avec le pardon de nos péchés, mais ça a à voir avec cet épanouissement personnel que nous pourrions développer parce que nous nous serions arrêtés et qu'une parole aurait pu non seulement nous bénir, mais en même temps bénir les autres. Parce que moi je crois vraiment que si par exemple demain matin, avant de partir au travail, avant de partir dans la rue, avant de partir à la poste, à l'école, j'en sais rien, à la fac ou ailleurs, une parole de Dieu vous bénit, il se peut aussi que cette parole, vous puissiez la donner à quelqu'un qui peut-être est en train de partir dans n'importe quelle situation. Et si Dieu dit « arrête-toi », c'est que c'est important. Ne dites plus « ouais, moi j'ai pas le temps, mais vous comprenez pas, mais vous avez le temps, vous êtes payé pour ça, c'est votre boulot ». Ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça, ça sert à rien, c'est ridicule. Parce que si Dieu vous dit « arrête-toi », laissez-moi vous dire que Dieu a quelque chose pour vous. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Tiens, je parlais tout à l'heure des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous rappelez comment Jésus, dans sa sollicitude, les a rejoints. Le jour de la résurrection, le Dieu du ciel et de la terre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va marcher. Non, mais c'est des trucs de malade quand on y réfléchit. Il va rejoindre deux disciples qui sont en train de désobéir parce que Jésus avait demandé aux gens de rester à Jérusalem. Et eux, ils s'en allaient à Emmaüs. Il les rejoint. Alors, de quoi vous entretenez-vous en marchant? T'es le seul ici. T'es le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé. Et Jésus fait semblant de ne pas savoir. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu ne sais pas. Et il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et le temps a passé, Jésus a commencé à leur parler. Leur cœur commençait à se réchauffer, on le sait plus tard. Et au moment où Jésus paraissait vouloir aller plus loin, parce qu'il est dit, il parut vouloir aller plus loin, ils ont eu l'intelligence de dire, reste avec nous. Est-ce qu'ils ont bien fait? Et c'est ce qui peut se passer dans un moment comme celui-ci, où le Seigneur nous rejoint par sa parole, parce qu'on a pris la Sainte-Seine et qu'on se réjouit, et tatati et tatata, et la communion, etc. Mais intelligent, celui qui pourra dire, mais c'est clair, c'est pour moi cette prédication. Il ne faut pas que tu passes plus loin. Il ne faut pas qu'à 11h30, tout ça dégage. Seigneur, reste avec moi. Et vous savez que quand ils ont partagé le pain, je ne sais pas comment ça s'est goupillé, il nous est dit que quand ils ont rompu le pain, peut-être que Jésus en rompu, peut-être c'est Jésus qui a dû rendre grâce, tout ça, bon, ils ont peut-être vu la marque, ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec le Seigneur. Et leurs yeux s'ouvrirent, et c'est pas étonnant qu'ils soient repartis en pleine nuit, à pied, à Jérusalem, parce que c'était là que Dieu les voulait. C'est important d'être là où Dieu nous veut. C'est important de dire au Seigneur, tu t'arrêtes, c'est bien, mais reste avec moi. Et quand vous ouvrez la Bible, c'est comme si vous disiez, si vous lisez avec votre cœur, c'est comme si vous disiez, Seigneur Jésus, reste avec moi. Si vous ne lisez pas la Bible, et si vous ne voulez pas la lire, et si vous trouvez toutes les excuses pour ne pas la lire, c'est comme si vous disiez, écoute Seigneur, passe ton chemin. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Vous allez me dire, je suis un peu raide, mais c'est quand même le résultat est le même. Reste avec moi, Seigneur. J'ai besoin de revoir tes mains percées. Est-ce que c'est bien de réfléchir sur la crucifixion du Seigneur, sur sa résurrection, de relire les évangiles et de réentendre que pour lui, tous les hommes sont vivants. Tous les hommes sont vivants. C'est important de le réentendre. C'est important que vous entendiez, arrête-toi, arrête-toi, arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le psaume 46. Je domine dans les cieux et je domine sur la terre. Arrête-toi. Oui. Oui, oui, c'était la résurrection de quelqu'un. Juste un mot. Vous avez vu, ne crains pas. Ne pleure pas. Arrête-toi. Mes frères et sœurs, il n'y a pas besoin de grands discours. Il y a besoin de savoir que Dieu nous aime et qu'il veut rester avec nous. Espère toujours en ton Dieu. Abraham, il ne disait pas, il disait, bien sûr, c'est Abraham. Mais il pensait que Dieu est puissant. Est-ce que vous pensez, parce que le dire c'est facile, on peut chanter Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut terminer en chantant Dieu Tout-Puissant? On va chanter, tout le monde va l'exprimer, mais bon, le chanter c'est bien. Mais le penser, est-ce que vous pensez que Dieu est puissant? Vous allez me dire, oui, mais avec ce qui se passe, vous n'avez pas vu, M. Gou, les infos hier soir, à Bangui, les chrétiens qui se sont fait massacrer. Bon, vous avez vu un peu le méli-mélo que c'est. Mais justement, quand je donnais la prophétie ce matin, je méditais ce texte. Que Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et vous savez, tout ce que l'on souffre, Dieu peut l'utiliser. Ce n'est pas Dieu qui le veut, mais Dieu l'utilise pour faire aboutir ses plans. Vous le croyez qu'il peut le faire, ça? Alors commençons par le commencement. Commençons par le début. Et le début, c'est ne pleure pas. Oui, il y a de quoi pleurer. Mais si c'est Dieu qui vous le dit, écoutez-le. Si c'est Dieu qui vous dit arrête-toi, arrête-toi. Peut-être que vous êtes fatigué, crevé, comme on dit. Peut-être que vous dites, oh, je suis crevé, j'en peux plus. Eh bien, arrête-toi. Arrête-toi. Ça ne veut pas dire, vous, ah, j'ai compris le message. Je vais demander au toubib 15 jours. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Non, mais il y en a qui comprennent très bien les messages. Mais peut-être que le soir, de prendre une demi-heure, ou le matin une heure, je ne sais pas le temps que vous avez, ça dépend du temps que vous avez, c'est à chacun, quand même, c'est à chacun de vous de savoir le temps que vous devez pouvoir prendre. Mais je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. J'ai besoin d'une parole. Oui, arrête-toi. Vous entendez, mes frères et sœurs? Vous voulez espérer en Dieu tout le temps? Il y a des gens qui se sont lassés, qui devraient être là ce matin. Ils ne sont pas là. Ils se sont lassés, l'âme découragée. La Bible en parle. Et ils n'étaient pas pires que nous. Ils étaient comme nous. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'on a eu l'intelligence de continuer à veiller. Mais il faut continuer, frères et sœurs. Parce qu'il faut espérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous n'ayons pas besoin de marcher par la foi, mais que nous marcherons par la vue. Parce que là, nos yeux le verront. Mes frères et sœurs, Dieu y sait ce qu'il a à nous dire. Alors, ne tenez pas compte des paroles des impies. Ne les écoutez pas, parce que si vous écoutez les infos en boucle, laissez-moi vous dire que vous avez de quoi être découragé. Mais le Seigneur, il garde ses enfants. Vous le croyez qu'il garde les siens? Il garde ses enfants. C'est pour ça que le matin, commencez votre journée en disant, Seigneur, protège mes enfants. Protège mes petits-enfants. Que ton sang précieux les couvre. Vous croyez que Dieu le fera? Moi, je le crois. Je le crois que Dieu est bon. Ouais. Alors, mes frères et sœurs, arrêtons-nous. Espérons en Dieu. Espérez toujours dans le Seigneur. L'espérance ne trompe pas. Abraham, les années ont passé. Dieu lui avait dit, il y aura ci, il y aura ça. Les années ont passé. Les années ont passé. Les années ont passé. Et on l'a lu, vous avez vu. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps qui était déjà usé. Le corps de sa femme qui était dans l'impossibilité d'enfanter. Mais il donna gloire à Dieu. Il donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il pensait que Dieu est puissant. Vous êtes heureux si vous pensez que Dieu est puissant. Vous êtes heureux. Parce que laissez-le s'occuper de vos enfants, de votre mari, de votre femme. Laissez-le, il va s'approcher. Mais laissez-le d'abord s'approcher de vous. D'accord, mes frères et sœurs? On ferme les yeux quelques instants. Notre Père, combien tu nous as laissé dans ta parole suffisamment d'exhortations, de promesses ou de commandements, qu'importe. Ta parole, pour nous bénir. Merci Seigneur. Non seulement tu as donné ta vie au calvaire, et en plus, tu as pris le temps, le soin de nous donner ta parole. Merci pour le jour où des hommes l'ont traduite en français. Vraiment merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de pouvoir, jour après jour, travailler de sorte que tu peux rester avec nous. Merci Seigneur Jésus. Tu sais où nous en sommes. Qui mieux que toi peut nous parler? Qui mieux que toi peut aller vers un Lazare? Qui mieux que toi peut parler à un papa et pleurer? Qui mieux que toi, Seigneur, peut arrêter un enterrement? Qui mieux que toi, Seigneur? Et nous le croyons et que pour toi, tous les hommes sont vivants. Même s'ils sont partis dans l'éternité, nous le savons, tous sont vivants. Alors Seigneur, garde-nous les yeux fixés sur toi. Donne-nous cette grâce vraiment de savoir ce que tu attends de chacun de nous, que nous puissions te voir ou te revoir, pour réapprendre à ce que nos yeux s'illuminent, sur la grandeur de ton amour. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.